Pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Marion.
Bonjour Namoury, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h10 à Port-au-Prince. À la une, la colère des Haïtiens avec cette pénurie d'essence due notamment à l'insécurité.
Les gens ont besoin d'essence pour fonctionner. Aujourd'hui, on ne peut pas. Pourquoi ils n'escortent pas les camions-citernes pour que toutes les stations soient approvisionnées, que les gangs ne volent pas l'essence?
Les bandes armées empêchent le bon approvisionnement en carburant. Les chauffeurs de taxi-moto ont manifesté hier à Port-au-Prince. Reportage dans cette édition. Haïti au programme aussi de la revue de presse de Christophe Paget avec un nouveau chef de la police nationale, mais aussi l'arrestation de deux membres haut placés d'un syndicat patronal au Nicaragua. La répression du gouvernement Ortega s'accentue. Et puis, on ira dans les Caraïbes, en Martinique plus précisément, pour le journal des Outre-mer. Serge Massot, vous nous parlez d'un service d'addictologie qui doit fermer ses portes faute de soignants vaccinés.
Oui, seul un soignant sur 20 dans ce service est vacciné. Conséquence, la direction a décidé de renvoyer les patients chez eux.
À tout à l'heure, Serge.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Les stations essence à sec en Haïti, les transporteurs de produits pétroliers ont appelé à la grève hier, mais cette pénurie est due surtout à l'insécurité dans le pays. Les bandes armées contrôlent les accès aux seuls 3 terminaux pétroliers du pays. Ils sont tous situés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Hier, dans la capitale, des groupes de chauffeurs de taxi-moto ont manifesté en multipliant les barricades. Ils ont laissé éclater leur colère au micro de notre correspondante Amélie Baron.
Ces dernières années, les stations essence ont poussé comme des champignons à travers Port-au-Prince, mais aujourd'hui, toutes sont fermées, ou quand, à de rares occasions, pour quelques heures, une pompe distribue du carburant, c'est la cohue. Un chauffeur de taxi-moto qui manifestait hier dans la capitale, mais qui a refusé de donner son nom, a voulu exprimer sa colère de voir que cette lutte pour avoir de quoi travailler affectait davantage la majorité pauvre, noire, que l'élite haïtienne.
On ne voit jamais un mulâtre dans les stations. Service. Les métis ne souffrent pas en Haïti, ils sont chez eux, ils ont internet, des panneaux solaires et tous les trucs. Mais pour nous, de la race noire, qu'est-ce qui va changer? En contrebande, on achète aujourd'hui l'essence entre 1000 et 1500 gourdes le gallon au lieu de 200 gourdes. Est-ce qu'un peuple peut vivre comme ça? Quel est l'avenir pour mon enfant et ceux de chaque noir qui est ici? Il n'y a pas de système éducatif qui fonctionne dans le pays. On va à l'école et on n'a jamais de travail. Yo, ce peuple-là, qui en est le maître aujourd'hui? Yo, il y a quelqu'un qui ne veut pas que les Haïtiens puissent vivre.
À quelques mètres, et alors que les manifestants bloquaient une voiture privée qui s'était risquée à prendre les rues, un étudiant s'interroge sur le travail de la police et sur l'absence de politique de promotion des énergies renouvelables en Haïti.
Les gens ont besoin d'essence pour fonctionner. Aujourd'hui, on ne peut pas. Pourquoi ils n'escortent pas les camions-citernes pour que toutes les stations soient approvisionnées, que les gangs ne volent pas l'essence? En Haïti, on n'a pas d'électricité. On a besoin du carburant pour faire fonctionner les génératrices et avoir un peu d'énergie. Ici, on a plein de soleil, mais les panneaux solaires sont hors de prix. L'État devrait subventionner les panneaux pour qu'on puisse tous en avoir un chez nous, pour qu'on puisse au moins recharger nos téléphones. Ils n'ont jamais fait ça. C'est de la stupidité.
Mais ça, c'est stupidité.
Si les consommateurs se plaignent de la pénurie, les distributeurs sont tout aussi à la peine. David Turnier, président de l'association des distributeurs de produits pétroliers en Haïti, et lui aussi prêche pour une action des forces de l'ordre.
Il faut établir clairement un couloir de sécurité. Il faut une présence continue, soutenue et musclée de la police. Non pas un jour ou deux, mais tous les jours, pour pouvoir sécuriser et les zones des terminaux pétroliers et le circuit du pétrole.
Faute d'avoir du carburant à vendre dans leur station, il assure que la perte est totale pour les distributeurs.
On a dû faire des compressions et réduire nos staffs, fermer même, renvoyer nos employés, parce qu'on arrive à peine à travailler 10 jours par mois, sinon moins. Ça ne nous arrange pas du tout, cette situation. Au contraire, beaucoup d'entre nous sont au bord de la faillite.
Et David Turnier fulmine face aux annonces à minima des autorités concernant les dernières commandes de carburant qu'elles ont passées.
La première chose qu'il faut avoir, c'est la disponibilité du produit en quantité et à temps. Là, maintenant, on s'amuse à dire qu'il y a des produits au terminal, mais qu'est-ce qu'on a reçu dimanche? On a reçu 30 000 barils de diesel et 17 000 barils de gasoline. Ça, c'est à peine 3 jours de consommation. Donc, on parle de quoi? on se fout de la gueule du monde. C'est rien du tout. C'est rien. C'est 2 à 3 jours de consommation. C'est rien.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Haïti, on en parle aussi dans la revue de presse des Amériques. C'est avec Christophe Paget. Bonjour Christophe.
Bonjour.
À la une, un nouveau directeur pour la police nationale, Franz Elbé, remplace désormais Léon Charles à la tête de la police nationale.
Et la démission de Léon Charles était réclamée par plusieurs couches de la société, rappelle Réseau Nord-Ouest, remarquant qu'elle survient moins de 72 heures après la séquestration de plus d'une dizaine de citoyens américains par les gangs armés 400 Mawozo. La presse n'est pas tendre pour celui qui s'en va. Léon Charles repart par la petite porte, titre le Nouvelliste. Il laisse une capitale en proie à l'insécurité. Plus d'un millier de personnes et environ une cinquantaine de policiers ont été tués au cours des derniers mois, souligne le journal, alors qu'Alter Press relaie le communiqué de l'UNICEF, selon lequel le nombre d'enfants et de femmes enlevés contre le paiement d'une rançon au cours des 8 premiers mois de 2021 a déjà dépassé le total de l'année dernière. De fait, Léon Charles a été vivement critiqué pour son incapacité à lutter contre les actes de criminalité et de banditisme, souligne Alter Press. Et sa démission intervient quelques jours après l'humiliation du gouvernement le 17 octobre au Pont Rouge, quand, avec le Premier ministre et les membres du gouvernement, Léon Charles avait dû prendre la poudre d'escampette sous les balles des bandits. Et puis, c'est sous l'administration de Léon Charles que le président Jovenel Moïse a été assassiné chez lui, rappelle le Nouvelliste. Le directeur de la police hué, copieusement insulté et même traité d'assassin lors des funérailles. L'homme avait développé la faculté d'être imperméable aux critiques, estime le journal. Mais il devenait évident qu'il n'avait plus la confiance des troupes ni les moyens adéquats pour inquiéter les gangs.
Et que dit la presse haïtienne de son remplaçant, Franz Elbé ?
Alter Press souligne que les efforts de Franz Elbé pour rétablir la sécurité lorsqu'il était au sud-est en 2012 ont été salués à l'époque. Mais les journaux se concentrent surtout sur ce qu'il attend, la chasse aux gangs armés, insiste le National. Il doit s'atteler vite à la tâche en vue de rétablir un climat de sécurité dans le pays. Le problème, soupire le Nouvelliste, c'est qu'on arrive directeur de la PNH sans plan et sans doctrine. C'est un poste que l'on hérite après l'échec constaté d'un précédent directeur lors d'une crise à son paroxysme. Le pays attend, à défaut de miracles, des signaux clairs et des résultats, aussi petits soient-ils.
Dans la presse des Amériques et également Christophe, le Nicaragua et l'arrestation du président et du vice-président de la COSEP, le syndicat patronal.
Arrêté selon la police pour un supposé blanchiment d'argent et pour atteinte à la souveraineté nationale, explique Confidential. La maison de Michael Haley, le président de la COSEP, a été perquisitionnée, comme ça a été le cas pour d'autres détenus et suspects, note le journal, entre autres des journalistes, des dirigeants sociaux, syndicaux, d'entreprises et même des dirigeants étudiants. La Prensa parle d'un niveau de répression qui dépasse même celui de gouvernement d'Amérique latine aussi violent et restrictif que le Venezuela. Trinchera de la Noticia remarque que la détention des deux hommes, critique du gouvernement du sandiniste Ortega, arrive au lendemain de la demande de l'Organisation des États américains exigeant la libération immédiate des candidats à la présidentielle du 7 novembre et des prisonniers politiques. C'est une stratégie, estime un analyste politique dans la Prensa. Chaque fois qu'il y a une action internationale, à l'interne, on en ferme davantage.
On reste en Amérique latine où les révélations des Pandora Papers continuent de faire des remous. Le président équatorien Guillermo Lasso, directement cité dans le scandale, a refusé 2 fois de rendre des comptes auprès du Congrès. Une enquête préliminaire a été lancée par le parquet équatorien pour déterminer si le président a fraudé le fisc local à l'époque où il avait des comptes offshore. À Quito, correspondance Eric Sanson.
Pour le président équatorien, se rendre au Congrès serait une perte de temps car il considère avoir déjà donné tous les éléments de réponse nécessaires. Lasso a confirmé qu'il avait bien été détenteur de 14 comptes offshore, mais pour lui, rien d'anormal puisqu'il a longtemps été à la tête d'une banque ayant une succursale au Panama. Le président équatorien a confirmé qu'il avait fermé ses comptes sans délai ni objection avant de se présenter devant les électeurs pour respecter une loi votée en 2017 qui interdit à tout fonctionnaire public et candidat présidentiel d'avoir des intérêts dans des paradis fiscaux. Lasso a mis ses comptes bancaires et déclarations d'impôts à disposition des organismes de contrôle. Il affirme que lui et ses entreprises ont payé de 2005 à 2020 588 millions de dollars d'impôts. Ces déclarations pourtant n'ont pas suffi à contenter l'opposition majoritaire au Congrès. Son adversaire malheureux du deuxième tour de la présidentielle, le candidat indigène Yacu Pérez, a exigé début octobre le suivi des mouvements financiers du président équatorien. La présidente du parquet, Diana Salazar, a désormais 1 an pour mener une enquête préliminaire à la recherche d'éléments prouvant une éventuelle fraude fiscale, délit pénal puni d'une peine de prison de 1 à 5 ans. Eric Sanson, Quito, RFI.
Et on vous retrouve, Christophe Paget, pour la suite de la revue de presse. Aux États-Unis, l'État de l'Alabama a exécuté hier soir Willie B. Smith.
La Cour suprême venait de refuser d'examiner le cas de cet Afro-Américain condamné il y a 30 ans pour le meurtre d'une femme blanche. Pourtant, souligne le site alabama.com, l'État n'a pas remis en cause le fait que Smith souffrait d'une sévère déficience intellectuelle. Et la Cour suprême avait en 2002 interdit l'exécution de ce type de personne, complète le Montgomery Advertiser, selon le centre d'information sur la peine de mort. Willie B. Smith est au moins la 28e personne souffrant de déficience intellectuelle à être exécutée depuis l'interdiction de 2002. Ses avocats affirment qu'il n'a même pas pu choisir un type d'exécution parmi ceux qui lui étaient proposés parce qu'il ne comprenait pas le formulaire.
On termine cette revue de presse avec ce qui semble être un accident sur le tournage d'un film aux États-Unis, Christophe.
L'acteur Alec Baldwin a tiré sur le plateau du Western Rust avec un pistolet utilisé comme accessoire et il a tué la directrice de photographie et blessé le réalisateur, rapporte USA Today. The Hill poursuit, selon le bureau du shérif, l'enquête cherche à comprendre quel type de projectile a été tiré et comment. Un porte-parole d'Alec Baldwin parle d'un accident avec un pistolet chargé à blanc. Le Washington Post rappelle la carrière prolifique du comédien connu ces dernières années pour son imitation de Donald Trump dans l'émission Saturday Night Live. Le journal revient aussi sur les décès survenus dans des circonstances similaires pendant des tournages. L'acteur Brandon Lee, fils de Bruce Lee, tué par un pistolet chargé par erreur à balles réelles. Ou encore John Eric Exum, feignant de jouer à la roulette russe sur un tournage avec un pistolet chargé à blanc et malgré tout tué par la détonation.
La revue de presse des Amériques et d'Haïti, signée Christophe Paget. Merci Christophe.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Comme tous les 12 octobre, l'Espagne a célébré le jour de l'hispanité il y a 10 jours, car c'est un 12 octobre que Christophe Colomb a posé le pied sur le continent américain. C'était en 1492, une date de plus en plus contestée en Amérique latine. Les mouvements indigènes veulent glorifier la résistance de leurs ancêtres plutôt que l'histoire des conquistadors et de la colonisation. Ils revendiquent une histoire qui prendrait en compte le point de vue des peuples autochtones massacrés par les Espagnols et des réparations sur les crimes commis. Même si beaucoup de choses ont changé ces 50 dernières années, les avancées sont encore insuffisantes pour ces mouvements indigènes. C'est un dossier de Martin Chabal et du service Amérique latine d'RFI.
Les peuples d'Amérique latine ne célèbrent pas les génocides, ne célèbrent pas les viols de nos ancêtres. Alors le 12 octobre prochain, il n'y a rien à célébrer, mais beaucoup à revendiquer.
Dans cette vidéo publiée sur Twitter le 12 octobre, Jessica González Herrera, politologue afro-colombienne, relance un long débat. Comment l'Amérique latine doit-elle célébrer ou commémorer l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent ? Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, a demandé au Vatican et à Madrid des excuses publiques pour violation des droits de l'homme du fait de la colonisation. Beaucoup de pays ont aussi rebaptisé le 12 octobre, jusqu'à présent célébré comme jour de la race, jour de la résistance indigène ou jour des peuples originaires et du dialogue interculturel. Pour Christian Gros, sociologue et spécialiste de l'Amérique latine, ces actes redéfinissent politiquement le continent.
Cette reconnaissance du multiculturalisme est un nouveau projet en rupture avec le grand projet national populaire des années 30 aux années 50 au Mexique, et dans lequel le grand projet des élites latino-américaines était le métissage. Et donc passer de la volonté d'affirmer une nation métisse à la reconnaissance d'une nation multiculturelle, c'est pas simple.
Avec la perte de leurs terres ancestrales, la dilution de leur langue et de leur culture, les peuples autochtones ont commencé à faire entendre leurs revendications.
Année 70, c'est le début des premiers mouvements indigènes dans un certain nombre de pays en Amérique latine. Le premier qui est reconnu comme tel, c'est à l'Équateur, avec les populations chouars de l'Équateur. Très rapidement, en Colombie, les populations indiennes de la région du Cauca créent un mouvement qui va être une sorte d'exemple pour toute l'Amérique latine. La date 1992, c'était l'année du 5e centenaire. Le mouvement indigène, qui était déjà bien organisé, parlait des 500 ans de résistance. Mais incontestablement, la parole indigène devient audible et c'est l'époque des grandes réforme constitutionnelle.
À cette date, le Mexique et le Paraguay reconnaissent les peuples indigènes dans leur constitution. La Bolivie et la Colombie aussi, les années qui suivent. Mais pour Carlos Massota, anthropologue argentin, ces avancées sont à nuancer. Elles ont apporté beaucoup symboliquement, mais pas suffisamment de façon concrète.
Il y a eu des avancées. La législation adoptée est une législation avec beaucoup de choses en faveur des communautés indigènes, mais son application est très lente. C'est une grosse contradiction parce que la législation reconnaît ces peuples autochtones à un niveau très important, mais dans les faits, ce n'est pas respecté. C'est ce qui continue d'alimenter le conflit aujourd'hui.
Un conflit qui se cristallise en partie autour de la mémoire de cette période. Fernando Payerican, historien mapuche au Chili, estime qu'il serait logique de réparer les massacres commis par les conquistadors.
Pour le monde indigène, c'est un génocide. Cette dénomination a modifié petit à petit l'image politique et culturelle des peuples autochtones. Et nous, car je m'inclus dans le peuple mapuche, nous sommes positionnés autour de l'idée d'une réparation historique.
Ces réparations peinent à voir le jour dans un contexte politique de plus en plus polarisé. Cette année, les manifestants sont descendus dans les rues pour revendiquer leurs droits. Au Guatemala, un groupe a tenté de faire tomber une statue de Christophe Colomb, figure à leurs yeux des massacres des peuples indigènes. Au Mexique, pour éviter les contestations, la maire de Mexico a choisi de retirer la statue du conquistador et de la remplacer par un monument d'une femme indigène. La Colombie, elle, a choisi cette année de rebaptiser le 12 octobre comme « Jour de la diversité ethnique et culturelle ». Pour l'instant, aucun de ces peuples autochtones n'a eu le droit à l'autodétermination, revendication principale de ces mouvements. Seul le Chili s'est engagé à aller plus loin. Avec l'obtention de 7 sièges à l'Assemblée constituante, les Mapuche espèrent pouvoir accéder à leurs revendications.
Et le dossier Amérique signé Martin Chabal.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Serge Massot, pour le journal de l'Outre-mer. Bonjour.
Bonjour Marion.
À la une, ses premières conséquences très concrètes en Martinique du refus de l'obligation vaccinale par le personnel soignant.
Oui, ça se passe dans la commune de Saint-Esprit. Parmi les 20 personnels soignants du service d'addictologie, un seul est vacciné. Alors conséquence, le directeur a décidé de fermer le service en début de semaine prochaine et déjà, des patients ont dû quitter leur chambre. Une décision jugée scandaleuse pour Hélène Sauffard, représentante CGTM. Elle l'a dit au micro de Claude Gracien.
Nous considérons que là, c'est une mesure vraiment scandaleuse que de sortir des patients d'un hôpital. Des patients qui ont besoin de soins. Donc la continuité de soins n'est pas assurée sur notre département.
Est-ce que vous avez peur aujourd'hui pour ces patients-là?
Ah oui, nous en avons vu pleurer quand on leur a annoncé les sorties. Alors nous avons eu des retours déjà de familles qui ont précisé avoir eu leur frère disant qu'il va se suicider. Nous sommes dans ce drame humain. Et nous dénonçons cet état de fait. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Ce qui est en train de se passer chez nous, c'est scandaleux dans la mesure où nous sommes le seul établissement de France à vivre ce genre de choses.
En Guadeloupe, l'aéroport Paul Caraïbe a vu sa fréquentation baisser de 55% par rapport à 2019. Une baisse de fréquentation de plus d'un million de passagers en cause la crise sanitaire. En Guyane, il n'y a jamais eu autant de tapouilles entre les communes de Mana et Irakoubo. Les tapouilles, ce sont des embarcations de pêche clandestines. La semaine dernière, les pêcheurs de l'Ouest guyanais avaient lancé l'alerte. Constat confirmé par le WWF. Le Fonds mondial pour la nature a effectué un survol de la zone mercredi. Laurent Kell, responsable du WWF Guyane, est au micro de Laurent Marot.
En 20 ans de présence permanente du WWF en Guyane, ça fait presque 10 ans qu'on fait des survols réguliers. On n'a jamais constaté une telle intensité de pêche illégale sur le nord-ouest de la Guyane. C'est la saison importante pour le dauphin de Guyane, une autre espèce d'importance internationale qui est menacée sur son aire de répartition, notamment en Guyane. Le dauphin de Guyane qui reste vraiment dans les eaux côtières. Et ce sont vraiment les eaux côtières qu'on a survolées hier et c'est exactement le type de menace qui, à terme, peut faire disparaître une espèce comme le dauphin de Guyane si rien n'est fait pour vraiment éradiquer le problème de la pêche illégale. La réponse des autorités, c'est de dire que la Guyane est bien dotée en termes de moyens de lutte contre la pêche illégale. Donc d'un côté, on nous dit qu'il y a des moyens, et de l'autre, sur le terrain, on constate que l'intensité de la pêche illégale reste extrêmement forte.
Et puis sachez que le deuxième lancement de l'année de la fusée Ariane 5, prévu ce soir depuis le port spatial de Kourou, est reporté. On invoque des vérifications complémentaires sur l'équipement de soutien au sol. Deux satellites géostationnaires de télécommunications devaient être envoyés dans l'espace. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot, c'était le journal de l'Outre-mer et ainsi s'achève cette édition des Amériques et d'Haïti. Merci à Claude Battista à la réalisation, à Véronique Guémard à la rédaction en chef. On se retrouve à la même heure lundi prochain, 13h10. Ce sera avec Mickaël Ponge qui fait son retour. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et également de nous réécouter sur RFI.fr. Bonne journée à tous.
Tout à l'heure sur RFI.